Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, c'est un formidable marché de plus d'un milliard de personnes, une économie qui pèse déjà 700 milliards de dollars dans le monde. Mais voilà, qu'il concerne les médicaments, l'alimentation ou les cosmétiques, le halal fait débat dans de nombreux pays dont l'islam n'est pas la religion principale, à commencer par la France, laïque et républicaine. C'est par l'intermédiaire d'une station de radio, Al Bayané, que l'organisation État islamique a approuvé les attentats de Paris contre le journal Charlie Hebdo et le supermarché Kacher de Vincennes. Sami Boukhalifa l'a écouté lorsqu'il était en reportage dans le nord de l'Irak. Il en a ramené un reportage édifiant. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Lotfi Belhadj, bonjour.
Bonjour.
Économiste, entrepreneur, vous avez présidé l'Observatoire économique des banlieues et vous publiez aux éditions du moment « La Bible du Halal ». Alors rappelons que la Bible est un ensemble de textes considérés comme sacrés par le judaïsme et le christianisme. Alors n'est-ce pas un peu provocateur de la coller au halal qui désigne plutôt ce qui est permis en islam ?
Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je voulais un peu définir et expliquer ce que c'était le halal en quelques mots. Le halal, c'est pour les musulmans les prescriptions qui les autorisent à pouvoir manger ou, comme le halal peut aussi concerner les médicaments, se soigner avec un médicament. Deuxièmement, le halal, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui doit être démystifié et clarifié par rapport à nos concitoyens français. Aujourd'hui, le halal est sujet à beaucoup de fantasmes. Donc, je voulais clarifier et démystifier ce terme dans mon livre. Et maintenant, je vais répondre à votre question. Provocateur, certainement. Mais la Bible du halal, pour moi, c'est une expression qui, comme on dit, vous savez, on dit Maracana au Brésil, c'est la Mecque du football. Donc, le terme, c'est un terme plutôt générique pour dire que dans ce livre, on peut trouver les clarifications et les explications telles qu'on peut les trouver dans la Bible pour aller vers la voie du bien, si je peux me permettre.
Alors, revenons sur le halal dont vous avez donné précédemment une définition. En France, dans votre livre, vous posez la question des normes, car il y a à la fois des règles et aussi parfois pas vraiment de règles.
Oui, aujourd'hui, le problème du halal est posé de façon politique parce que le ministère de l'Intérieur, en la personne de son ministre, est aussi ministre du culte, a voulu légiférer le halal et l'organiser. Donc aujourd'hui, vous avez des mosquées qui sont agréées par un ministère de l'Intérieur pour pouvoir faire de la certification et des associations et des sociétés indépendantes qui font la même chose.
Qui contrôle ?
Qui contrôle ? Eh bien, les organismes certificateurs, les mosquées, et vous avez aujourd'hui un marché qui est pris par une dizaine d'organismes indépendants qui sont organisés en association ou en société, sont des petites PME.
Mais alors, quel rapport entre justement le halal et la laïcité ? Quel devrait être le rapport entre les deux ? Vous dites dans votre livre, vous comparez finalement le halal au végétarien. Ça devrait être à ce niveau-là.
Oui, je pense que le halal, vous savez, il est de tradition française, de par notre culture laïque, de justement permettre à tous les concitoyens de manger ce qu'ils veulent. De toute manière, ça c'est un des fantasmes, et c'est pour ça que je l'ai appelé la Bible, pour pouvoir un peu expliquer aux gens, parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que le dialogue aujourd'hui, il est un peu brouillé par beaucoup de non-dits, et aujourd'hui, par beaucoup de fantasmes. Donc aujourd'hui, la laïcité n'a aucun problème avec le halal. Le halal est un degré de plus de contrôle sanitaire. Et le halal, contrairement à l'idée que colportent surtout certains politiques, on ne va pas les nommer ici, mais on le sait très bien, il y a une directive du ministère de l'Intérieur de 2012 qui autorise les chefs d'établissement de dispenser des repas végétariens, kachers ou halal. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction à la loi et à la laïcité. Le halal n'est pas un tabou. Je vous dis, le halal est un degré, et je vais me permettre de dire, un degré supérieur de qualité et de contrôle. On ne va pas aujourd'hui reprocher des choses au halal qui sont bénéfiques.
Nous parlions de la France essentiellement. Qu'en est-il en Europe ? Est-ce qu'il y a des normes en Europe et est-ce qu'il y a des bagarres entre différents courants sur la certification du halal?
Le halal et l'abattage rituel sont autorisés par la communauté européenne. Pour parler de tous les produits carnés, c'est-à-dire la viande, l'électronarcose, c'est-à-dire l'assommage des bêtes avant leur abattage, est une directive européenne, mais qui donne une dérogation à l'abattage rituel, donc halal et kasher, parce qu'il va être très difficile de répondre aux exigences des associations de défense animale, ce qui nous emmènerait sur le terrain, d'empêcher une grande partie de la communauté européenne juive et musulmane de ne pas pouvoir manger comme ils l'entendent.
Est-ce que le tfibelaj, le halal, et aussi le kasher, mais essentiellement le halal, puisqu'il y a beaucoup plus de musulmans de par le monde, ça devient un marché économique?
C'est évident. Le marché du halal est aujourd'hui une opportunité pour notre pays. Parce que ce marché qui représente aujourd'hui, en gros, 700 milliards de dollars, va représenter, à vision de 2023, un marché de 2500 milliards de dollars, soit plus ou moins le PIB de notre pays. C'est une opportunité parce que le halal, ajouté au savoir-faire français. D'ailleurs, les industriels français ne s'y trompent pas. Vous avez des précurseurs du halal qui sont français. Vous avez Doux, vous avez Labéry, vous avez Nestlé. Parce que les gens ne savent peut-être pas. En Asie du Sud-Est, L'Oréal est halal. C'est-à-dire que la teinture pour les cheveux, eh bien, elle est halal du fait qu'elle ne contienne pas d'alcool. Le rouge à lèvres ne contient pas de graisse animale. Donc aujourd'hui, il y a des marchés à prendre et la France doit les prendre. Et c'est pour ça que dans mon livre, La Bible du halal, je voulais éclairer et démystifier un problème qui n'en est pas un. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une niche marketing, c'est la caverne d'Ali Baba, le halal.
Une caverne dans laquelle voudrait bien rentrer un certain nombre de pays, notamment du sud-est asiatique. On voit que, par exemple, la Malaisie, qui a à peu près 50 à 60% de sa population qui est musulmane, qui s'est engouffrée et qui devient un des leaders sur ce marché.
Aujourd'hui, la certification halal de la Malaisie représente environ 15% du marché mondial. Les Malaisiens ont eu l'intelligence, en s'adossant à des grands groupes, à penser, il y a de cela une quarantaine d'années, à un label halal international qui réponde avant tout aux normes européennes, c'est-à-dire que le halal va de la fabrication jusqu'au transport. Donc, ils ont pris ce marché, ils ont obligés à une norme pour l'importation dans leur pays, c'est-à-dire que si vous, Français, vous voulez vendre de la marchandise en Malaisie, vous devez être halal, sinon au supermarché, contrairement à la France, vous êtes dans le petit rayon à côté qui n'est pas halal. Donc maintenant, nous, on doit trancher. Soit on arrive à se comprendre et à s'entendre autour de notre assiette française. On devrait pouvoir y arriver. On a une tradition gastronomique qui est reconnue par le monde entier, en essayant de lever tous ces tabous qui, en réalité, ne sont pas problématiques.
Une dernière question qui concerne les pays arabes qui semblent finalement absents de ce marché qui devrait les concerner au premier chef.
Le problème des pays arabes, on va prendre les pays arabes du Maghreb qui sont nos voisins. Aujourd'hui, au départ, ils ont estimé que tout était naturellement halal. Et donc, ils avaient des consommateurs qui ne se sont pas posé la question. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question. Alors, comme je l'écris dans le chapitre concernant le Maghreb, vous avez différents traitements. Le Maroc, aujourd'hui, a démarré cette réflexion en 2012. Les Algériens, en 2014, ils sont en train d'élaborer un label. Et les Tunisiens sont à la traîne parce que je pense que les politiques tunisiens n'ont pas encore été sensibilisés à ce problème et qu'ils vont y venir, j'espère pour eux, assez rapidement.
Merci Lotfi Belhadj. Je rappelle que vous êtes entrepreneur économiste et surtout auteur du livre La Bible du Halal aux éditions du Moment.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
في خبرنا الأخير
Elle est la voix officielle de l'organisation État islamique. Radio Al-Bayan diffuse dans certaines régions d'Irak et de Syrie. C'est sur ces ondes que l'organisation État islamique a salué les attentats en France et particulièrement le meurtre des journalistes de Charlie Hebdo. Sami Boukhalifa, bonjour.
Bonjour.
Sami, vous étiez en reportage il y a quelques jours sur le front de Sinjar, ville irakienne proche de la Syrie, contrôlée par les djihadistes, et vous avez pu écouter cette radio.
Oui, nous étions en voiture en fait lorsque nous sommes tombés un peu par hasard sur cette station. Radio Al-Bayan émet sur bande FM. Elle serait basée à Raqqa, ville syrienne considérée par l'organisation État islamique comme sa capitale. Et Radio Al-Bayan, eh bien, ça donne ça. Deux sabres qui s'entrechoquent, un jingle en arabe à la gloire, je traduis, du califat de l'État islamique.
Sami, pour pouvoir diffuser en FM dans toute cette région, l'organisation islamique dispose donc de relais radio.
Oui, le territoire djihadiste, vous savez, est établi à cheval entre l'Irak et la Syrie. Lorsqu'on prend une carte des deux pays, nous avons d'un côté Raqqa en Syrie, capitale de l'organisation État islamique, de l'autre Mossoul en Irak, deuxième ville plus importante du pays et qui, elle aussi, est contrôlée par les djihadistes. Au milieu, eh bien, il y a cette espèce de zone de non-droit où ces radicaux font leurs lois. Ils ont levé une armée de combattants, ça on le sait, mais ils disposent également d'une armée de fonctionnaires, de techniciens et d'ingénieurs. Ces experts spécialistes ont des compétences et ils les mettent au service de l'organisation État islamique. Ils ont par exemple détourné les réseaux électriques et hydrauliques irakiens au profit de leur capitale, la ville de Raqqa en Syrie. Et ils exploitent aussi les relais radio déjà existants dans cette région.
Et cette radio, Al-Bayan, est donc une chaîne de propagande.
Oui, tout à fait, mais eux la présentent en tout cas comme une chaîne généraliste sur laquelle on peut écouter les informations. Par exemple, il y a régulièrement des flash infos comme celui qu'on entend en fond. Le format est classique, des informations en bref données à la suite par un présentateur. Sauf qu'entre chaque info, il y a ce jingle qu'on entend, les deux sabres qui s'entrechoquent encore une fois. Un jingle qui revient tout au long du flash info. Et pour cause, les informations qu'on écoute ici en arabe, eh bien, c'est un peu le journal de l'horreur.
Oui, ils font le bilan d'une journée de carnage.
C'est ça. Exactement ça, oui. Leurs informations résument une journée d'attaque, d'attentats, d'embuscades. Et ils dressent un bilan macabre, celui du nombre de personnes tuées chez leurs ennemis. Ce flash que j'ai enregistré fin décembre s'ouvre par exemple sur leur grande nouvelle du jour. Ils annoncent avoir ciblé et touché un avion de renseignement américain qui survolait la région.
Alors Sami, leur bulletin d'information se termine souvent, c'est terrible à dire, sur les exécutions de la journée.
Oui, ils annoncent les décapitations, les mains coupées, les pendaisons des hommes et des femmes qui vivent dans leur territoire, donc dans ces territoires qu'ils contrôlent, et qui ont été accusés d'apostasie, de vol ou d'adultère. Et enfin, à la fin du flash, eh bien, ils diffusent leur chant de guerre qu'on peut écouter.
Radio Al-Bayan, la radio de propagande de l'organisation État islamique, un reportage que vous ramenez d'Irak. Merci Sami Boukhalifa.
Merci à vous.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la presse arabe et surtout égyptienne consacre une large place aux attentats du Nord-Sinaï en Égypte.
Des médias qui condamnent unanimement ce qu'ils qualifient d'actes de barbarie commis par des renégats qui utilisent la religion pour couvrir leurs crimes. Alors des condamnations qui émanent de toutes les capitales arabes, comme aussi des différentes instances islamiques. Les journaux égyptiens, eux, titrent sur les funérailles nationales faites aux policiers et aux militaires, mais aussi sur les funérailles des civils tués dans les attentats qui ont fait une trentaine de morts. L'occasion aussi pour les éditorialistes de s'en prendre aux frères musulmans que certains estiment être les instigateurs de l'attentat dont l'organisation djihadiste État du Sinaï, affiliée au groupe État islamique, ne serait que l'exécutant. Certains vont jusqu'à pointer du doigt Gaza et les tunnels qui la relient à l'Égypte, malgré tous les efforts de l'armée pour les détruire.
Alors à l'inverse, la presse israélienne, Michel Paul, s'intéresse, elle, au regain de tension au nord d'Israël.
calme tendu, c'est le titre que l'on retrouve le plus souvent ce week-end pour qualifier la situation à la frontière nord d'Israël après le nouvel incident qui a provoqué mercredi dernier la mort de deux soldats israéliens. Et dans les journaux, à la une, les photos des funérailles de ces deux militaires. Nombreux chroniqueurs demandent comment l'armée israélienne a pu tomber si facilement dans le piège tendu par le Hezbollah à la frontière israélo-libanaise. L'incident est exploité politiquement par les candidats dans le cadre de la campagne électorale. Il faut réagir de manière disproportionnée, proclame le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman. Un éditorialiste du Haaretz fait lui remarquer que la frontière sur le Golan a bien changé. Désormais, en lieu et place de la stabilité et du calme, Israël doit s'attendre de ce côté-là à de nouveaux épisodes de violence, à l'instar de ce qui se passe en bordure de la bande de Gaza.
Et vous le disiez à l'instant, Michel, vos journaux s'intéressent encore et toujours à la campagne électorale.
Oui, c'est là peut-être le point le plus important à retenir cette semaine, Eric. Désormais, une majorité d'Israéliens estiment que les questions de sécurité sont le thème numéro un de la campagne électorale, bien devant les questions sociales et économiques. Et selon les commentateurs, c'est exactement ce que souhaitait le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, qui se présente comme Monsieur Sécurité face aux leaders de l'opposition qui, eux, misent sur la carte sociale. À l'heure actuelle, les sondages donnent les deux grands partis, le Likoud de Netanyahou et l'Alliance centre-gauche, dans un mouchoir de poche. Et après la clôture du dépôt des listes dans les journaux, un récapitulatif. En tout, 26 partis participeront au scrutin du 17 mars. La moitié d'entre eux disparaîtront au lendemain des élections, tels que le Parti des Pirates, On est tous copains, le parti de la fleur et aussi celui de la lumière.
Où va l'Arabie Saoudite, Alexandre? C'est la question que se posent de nombreux éditorialistes après l'intronisation du roi Salman.
Oui, et pour la presse saoudienne, il s'agit d'un changement dans la continuité. Alors, changement de roi et de gouvernement, mais continuité dans la politique du royaume. Réformes progressives à l'intérieur pour ne pas provoquer de secousses, surtout dans les milieux les plus conservateurs, et notamment les tribus bédouines, expliquent les journaux. Continuité aussi au niveau de la politique régionale, qui est basée sur l'endiguement de, je cite, l'expansionnisme iranien, ainsi que l'extrémisme sunnite de l'État islamique. Un royaume aujourd'hui menacé sur ses frontières nord avec l'Irak et sud avec le Yémen. Quelques éditorialistes ont aussi jugé déplacés les vêtements bariolés de Michelle Obama, venu présenter ses condoléances avec le président américain. Quant au fait qu'elle ne se soit pas voilée, les journaux rappellent que toutes les First Ladies ne s'étaient pas voilées par le passé.
Également, Alexandre, un grand reportage dans le journal Al-Sharq Al-Awsat sur les réfugiés du printemps arabe en Égypte.
Et il ne s'agit pas de réfugiés désargentés, mais plutôt d'exilés ayant les moyens et qui ont choisi l'Égypte. Ils sont venus de Syrie, de Libye et maintenant du Yémen. Le journal, qui les estime à près d'un quart de million, indique qu'ils avaient commencé à mener grand train, pensant rentrer bientôt au pays. Mais avec la détérioration de la situation en Syrie et en Libye et la baisse de leur fortune, ils se voient de plus en plus obligés à réduire les dépenses. Après avoir fait flamber l'immobilier de luxe, les voici contraints de se contenter d'appartements en location, parfois même dans des quartiers populaires. Une exception toutefois, ceux qui ont le commerce dans le sang et qui ont investi leurs capitaux dans les affaires, de l'import-export au restaurant, en passant par le prêt-à-porter et les salons de beauté.
Et puis, Michel, une drôle d'affaire dont l'héroïne n'est autre que l'épouse du Premier ministre israélien.
Oui, c'est le grand titre de la presse de ce week-end en Israël. Un nouveau scandale, donc. Sarah Netanyahou aurait empoché l'argent de la consigne des bouteilles utilisées dans la résidence du Premier ministre, en tout quelques milliers de shekels. Un scandale de plus qui entache la famille Netanyahou, comme par hasard, à la veille des élections.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo d'Ariel Sharon. Le premier anniversaire de sa mort a été commémoré jeudi dans la ferme des Sycomores, son ranch dans le sud du pays.
L'ancien Premier ministre décédé l'an dernier après 8 années de coma. Merci Michel, merci Alexandre, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Géopolitique, le débat.